Compte Complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Huzreau s'entretient avec le journaliste et chroniqueur sportif André Rousseau.
André Rousseau, on vous connaît comme journaliste sur la scène sportive au Québec depuis quelques décennies déjà. On va laisser faire le nombre de chiffres. Ça fait un petit bout de temps, André, que vous êtes là. On vous connaît comme amateur de golf. Vous suivez le hockey depuis un bon bout de temps. Vous avez votre chronique encore sur le web, mais vous êtes un amoureux du baseball.
Ben, écoute, premièrement, Alain, je pourrais te dire que je suis parmi les dinosaures du sport. Parce que, écoute, quand j'ai commencé à envoyer mes premiers textes au Journal de Montréal dans le temps, j'envoyais ça par Western Union. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi ça, mais ça veut dire que ça fait longtemps. Et pour ce qui est de ma passion pour le baseball, ben, elle date de ma plus tendre enfance. Quand j'étais jeune, je regardais les matchs des séries mondiales. Mon idole, c'était Mickey Mantle, les White et Ford, et Yogi Berra. Quand je suis arrivé au journal, on m'a affecté à la couverture du Canadien Junior. J'ai d'ailleurs vu le Canadien Junior remporter la Coupe Memorial avec Gilbert Perreault comme chef de file. Mais ma passion, c'était le baseball. J'avais demandé à Jacques Beauchamp, qui était alors le grand patron, j'avais dit aussitôt qu'il y a une ouverture pour couvrir les expos, c'est ça que j'aimerais faire. Et puis j'ai été chanceux parce que quelques mois plus tard, Marcel Godette, qui était affecté à la couverture des expos, a décidé d'abandonner et le poste est ouvert. Ça, c'était à l'automne 1970. Et là, j'ai eu la chance de vivre peut-être la plus belle expérience de ma vie en couvrant les expos pendant 5 ans. Et ben, qui ne se rappelle pas de la belle époque du stade Jarry? Le seul problème, c'est que ce stade-là, c'est le stade de ma jeunesse. Et comme le dit si bien Reggiani, personne ne repasse par sa jeunesse.
Non, on a tendance à idéaliser un petit peu nos vieux souvenirs. Il y a quelques thèmes que je veux aborder sur les premières années des expos. Vous avez été là, donc, est-ce que c'est dès 69 que vous avez commencé à suivre, André, des expos?
Non, à l'automne 70.
OK, et ça s'est poursuivi jusqu'en 1900?
À la fin de la saison 75, et pour toutes sortes de raisons, j'ai abandonné la couverture du baseball, surtout pour des problèmes personnels. Et puis, c'est Serge Touchette qui a pris la relève. Il a tellement bien fait ça qu'il a été en poste pendant jusqu'à la mort des expos en 2004.
Oui, vous avez précédé Serge Touchette. Bon, mais vous avez quand même été là pendant la grande partie des expos au Parc Jarry. Parlez-moi donc du Parc Jarry, là, qu'on a tendance à idéaliser, la piscine du champ droit. Le fait que le match était parfois retardé en raison du soleil qui plombait dans les yeux du premier but. C'est vrai, cette histoire-là?
Oui, c'est absolument vrai. Il fallait retarder le match. C'est Ron Fairley qui jouait au premier but. Il était le grand champion du double jeu 3-6-3. Et le Parc Jarry, c'est pas un stade des ligues majeures, ça. Les autorités ont accepté ça parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour les débuts de la concession. Mais j'ai toujours pensé, moi, que c'est Jean-Pierre Roy qui me disait ça dans le temps. Jean-Pierre Roy, qui est une autre légende du baseball, que Charles Bronfman et ses associés auraient dû construire un stade flambant neuf dans le territoire du stade du Parc Jarry, parce que c'était vraiment le meilleur endroit entre les deux solitudes du Québec. Alors, entre le West Island et les gens de l'Est, c'était je pense, moi aussi, ça aurait été l'endroit idéal pour un stade de 35 ou 40 000 places. Mais ça ne s'est jamais matérialisé. On s'est retrouvé avec le stade olympique en 1976. Un très beau stade pour les Jeux olympiques, mais un stade que je n'ai jamais considéré comme un grand stade de baseball.
Qui n'a jamais été conçu pour ça. Les expos sont toujours pleins qui n'avaient pas été consultés dans la conception du stade.
John McHale, qui était alors président, qui était longtemps président des expos, c'est toujours plein qu'on ne l'avait pas consulté concernant la construction. Ce n'est pas compliqué. Il aurait fallu que les estrades soient construites plus en hauteur pour que les gens soient plus près de l'action. C'est là que l'erreur a été commise par ce cher Roger Taillibert.
Oui. On va élaborer un petit peu sur le Parc Jarry. Moi, j'y suis allé deux fois dans ma jeunesse. J'y garde de très, très bons souvenirs. Peut-être la remontée la plus spectaculaire de l'histoire des Expos. Je l'ai manqué parce que j'ai quitté le match avant la fin. Je ne sais pas si c'est un match qui vous dit quelque chose, là, mais c'est un match en 9e manche. Les Expos perdaient par 4 points. Il n'y avait personne sur les buts, 2 retraits. Les Expos avaient trouvé le moyen de revenir sur un grand chelem de Bob Stinson. Bref, ce match-là, j'étais là. Et j'ai manqué peut-être, comme je me mentionnais, la remontée la plus historique de l'histoire. Toujours est-il que... Écoutez, quand on regarde les images, quand on regarde un petit peu le stade, la configuration, puis l'endroit où c'était, j'ai l'impression qu'il y avait une bonne humeur qui se dégageait quand les gens assistaient à un match. Il y avait évidemment l'aspect nouveauté là, du baseball majeur, mais c'est ce qui se dégage des vieilles images qu'on voit du Parc Jarry.
Mais écoute, Alain, c'était un stade qui était très chaleureux parce que, premièrement, tout le monde était près de l'action. Ça coûtait pas cher, Brelo Baseball. Les prix étaient ridiculement bas comparativement à ce que c'est aujourd'hui. Il faut dire que les salaires des joueurs étaient pas mal plus bas aussi. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Écoute, c'était une solution de rechange. Mais moi, jamais j'oublierai ce stade-là. Il y avait de l'ambiance, il y avait le gigueur dans les estrades, il y avait Fernand Lapierre. Alors qu'il mettait il y avait une ambiance incroyable au Stade Jarry. Au Stade olympique, on n'a jamais réussi à recréer la même ambiance. Et d'ailleurs, au Stade olympique, pour qu'il y ait vraiment de l'ambiance, il fallait qu'il y ait au moins 25 000 spectateurs, parce qu'en bas de ça, c'était quand même...
Oui. Écoutez, j'ai eu l'occasion de couvrir le tournoi de tennis qui a lieu au même endroit. Et là, je parle d'il y a 30 ans passés. On retrouvait encore, bon, on a rénové complètement le stade depuis pour le tennis, mais pour les journalistes, c'était encore la vieille galerie de presse. Et on retrouvait des plaques, des journaux qui couvraient les expos à ce moment-là, oui. Et dont des journaux de Burlington puis de Plattsburgh. Il y avait évidemment les journaux de Montréal. Pour les journalistes, comment c'était couvrir? Est-ce que les installations étaient adéquates pour couvrir les expos?
Oui, on était proche de l'action. Écoute, c'était pas une vraie galerie de baseball majeur, là. On s'entend là-dessus. Puis ça a été la même chose. Mon ami Mario Brisebois couvrait le tennis dans cette même galerie pendant une trentaine d'années, au moins. Puis quand il faisait chaud, là, quand il faisait très chaud l'été, là, je peux te dire qu'il faisait chaud dans la cabane au deuxième étage. Mais je me souviens surtout, moi, quand je pense à cette galerie-là, je me souviens surtout de Marc Thibault, un vétéran journaliste qui travaillait pour le journal de Gazette dans le temps. Et puis lui, il y avait une heure de tombée, je pense qu'il était alentour de 10 heures le soir pour envoyer son article au journal. Puis il n'arrêtait pas de crier après les joueurs pour leur dire d'aller plus vite pour que la partie se termine avant 10 heures.
Mais ça arrivait presque jamais. Les matchs commençaient à 8 heures à ce moment-là.
Non, je sais, mais quand Bob Gibson était au monticule, ça pouvait durer 1h45, je peux te dire ça. Des fois moins.
Bon, André Rousseau, quelques personnages ont marqué les expos à ce moment-là. On va commencer par le gérant que vous avez couvert, là, Gene Mock. Bon, on ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui mène, parce que Gene Mock prenait de la place. Même Gene Mock l'a mentionné.
Alain Gene Mock, on était surnommé le petit général. Bon. C'est d'ailleurs Marc Thibault qui lui avait donné ce surnom-là. Mais bon, en réalité, c'était lui le grand général parce qu'il contrôlait tout de A à Z. Et son seul défaut, d'après moi, c'était un très bon gérant, Gene Mock, qui était très bon pour les expos. Et son défaut, c'est qu'en anglais, he was thinking ahead of the game. Ça veut dire que lui, quand la partie commençait, il était déjà rendu en 7e manche dans sa tête, ce qui n'était pas arrivé en fin de match. Il appelle ça du over-managing. Mais c'est probablement ça qui a coûté le championnat à Philadelphie en 1964, alors que son équipe avait une avance de quelque chose comme 10 parties avec je ne sais pas combien de parties à jouer au mois de septembre. Mais moi, j'ai beaucoup appris à son contact. C'était un homme de baseball. Il a consacré sa vie en entier, Gene, au baseball. Quand il est parti de Montréal, il a dirigé longtemps les Twins du Minnesota et les Angels de Californie, jusqu'à temps que sa maladie l'empêche de continuer. Et d'ailleurs, Gene était aussi un maniaque de golf. Durant la saison morte, là, il restait, lui, à Rancho Mirage, en Californie, et puis il jouait 36 trous par jour.
Ah oui, 36. C'est deux parties par jour, ça.
Ouais, monsieur, mais en carte, là, puis il est en forme, puis c'est aucun problème. Puis écoute, la température dans la région de Palm Springs, c'est absolument fantastique.
Vous êtes amateur de golf, passionné, ben, je dirais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer avec lui?
Non, non, malheureusement, je n'ai pas joué avec Gene. J'ai joué avec d'autres personnes. J'ai joué avec Doug Snyder, qui a été commentateur et instructeur des expos. Ça, c'est d'ailleurs un des personnages les plus extraordinaires que j'ai rencontrés durant ma carrière. J'ai joué naturellement avec Jean-Pierre Roy. J'ai joué une fois, c'est drôle, j'ai joué une fois avec John Smoltz au Club Laval sur le lac.
Oh, c'est un bon joueur, lui.
Oh, monsieur. On m'avait dit qu'il serait là le matin avec Tom Glavine et Greg Maddux, les trois grands champions des Braves. Et ben, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si c'est Maddux et Glavine se sont couchés trop tard, mais ils ne se sont pas présentés au club. Alors, j'ai joué seul avec John Smoltz à Laval-sur-le-Lac. Et puis, je peux te dire que ça me prenait deux coups pour rejoindre son coup de départ. C'était, écoute, c'est une force de la nature. Et lui, il était un des premiers membres au club de golf à Atlanta. Et il a tenté sa chance, je pense même, dans le circuit senior, pour essayer de jouer dans le circuit senior de la PGA, mais ça n'a pas fonctionné. Le baseball et puis le golf, c'est deux choses très différentes.
Oui, mais on peut quand même voir qu'il y a des qualités athlétiques là, se reflètent souvent dans d'autres sports pour les grands athlètes.
Hein, Smoltz, je ne vais pas parler de Smoltz toute la journée, mais Smoltz, c'est un des rares qui a été aussi bon comme partant et comme lanceur de relève. C'est assez exceptionnel.
Oui. Rusty Stump, parlez-moi donc de la première grande vedette des Expos de Montréal. Vous l'avez côtoyé. On dit qu'il aimait profondément Montréal, même que lorsqu'il a été échangé de New York, c'était quand même un endroit qui, finalement, ça a bien tourné pour lui, mais qui ne voulait pas quitter Montréal lorsqu'on l'a échangé.
Ben écoute, Rusty, il était le joueur le plus populaire, non seulement à Montréal, mais de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Les Blue Jays n'existaient pas à cette époque-là. C'était une super, super étoile. Il était très, très heureux au Canada. La seule chose qui ne fonctionnait pas à son goût, c'est qu'il demandait un salaire de 100 000 $ et John McKay ne voulait pas lui donner. Finalement, il est obligé de signer pour 99 000 $. Je me souviendrai tout le temps, pendant le camp d'entraînement à West Palm Beach, j'avais demandé à M. McKay, est-ce qu'il y a des intouchables chez les Expos? Et il m'avait répondu, oui, on a un seul intouchable, c'est Rusty Staub. Et quelques semaines plus tard, Rusty était échangé aux Mets en retour de trois jeunes joueurs. Ben, c'était un très bon échange pour les Expos parce qu'ils mettaient la main là, sur trois joueurs susceptibles de les aider pendant plusieurs années. Ben, moi, j'étais allé au condo de Rusty au centre-ville. Il était dévasté, découragé de quitter Montréal pour s'en aller Ripple et Mets. Ça a très bien tourné. L'année suivante, il a participé à la Série mondiale contre Oakland. Et puis, finalement, il est devenu restaurateur à New York. Je pense que il s'est tenu trop proche de la cuisine parce qu'il a pris du poids rapidement.
Oui. Ben, il aimait déjà ça quand il était à Montréal. Ça, c'était public. On le savait là, qu'il aimait la bonne chair là, quand il était à Montréal. Rusty. Il aurait pu ouvrir son restaurant à Montréal éventuellement.
Oui, oh, sûrement. Et c'était pas... Écoute, il nous a tellement parlé de la possibilité d'être élu au Panthéon du baseball. Il lui manquait pas grand-chose. Je pense faudrait que je vérifie, mais quelque chose comme 2 700 coups sûrs.
Ouais.
Il en a frappé 500 avec quatre équipes différentes. C'était un exploit inégalé, ça. Il était assez bon voltigeur de droite avec un bon bras. Alors, il était, comme on dit, borderline. Et finalement, ça ne s'est pas passé. Et c'est drôle, j'étais en vacances à West Palm Beach il y a 3 ans, 4 ans passés. Quand il est mort dans un hôpital de West Palm Beach.
Oui. Parlez-moi de la saison 1973 des Expos. C'est la première au cours de laquelle les Expos ont été impliqués dans une course au championnat. C'est pas parce que les Expos ont été super extraordinaires, mais c'est la première au cours de laquelle ils flirtaient avec une fiche de 500. C'est généralement le cas. La cinquième année, c'est là où les organisations commencent à être égales avec les autres. Mais là, il n'y a personne qui gagnait. Les Pirates étaient plus forts que tout le monde, mais c'est une mauvaise saison. Les Mets l'ont éventuellement gagné. Mais pour André Rousseau et tous ceux qui suivaient les Expos, parlez-nous un petit peu là, de cette saison-là qui était complètement folle.
Bien, c'était oui, complètement folle, c'est l'expression exacte. Les Expos n'auraient jamais dû être dans la course. Ça, c'est officiel. Mais les autres non plus. C'était à qui perd gagne. Je pense que les Expos ont fini qu'une fiche de 79 et 83. Ça ne gagne pas le championnat avec ça, d'après moi. Là. Mais c'est les Mets. Il me semble que c'est Yogi Berra qui était gérant des Mets.
Exact.
Et puis, je me souviens surtout que... j'essaie de me rappeler, mais ben, écoutez, c'était avec des joueurs, Adolfo Phillips, Ron Brenn.
Oui, ouais, ils étaient partis, eux autres.
John Boccabella, John Bittman. Il n'y a pas des All-Stars là, qu'on avait là. Mais on avait un releveur qui était absolument exceptionnel, c'est Mike Marshall. Et ça, c'est Marshall, c'est lui qui a gardé les Expos dans la course. D'ailleurs, Gene Mock avait tassé, bon, assez cavalièrement, il avait tassé Claude Raymond pour faire place à Marshall comme le releveur numéro un l'année précédente. Et Marshall était tellement bon avec sa balle tire-bouchon que l'année suivante, là, il a été changé aux Dodgers en retour de Willie Davis. Et avec les Dodgers, je pense qu'il a participé à 114 parties. C'est quasiment inimaginable. Et puis, c'est lui qui a mené les Dodgers au championnat. Alors, ça c'est un souvenir qui me revient en tête.
Quelqu'un qui était capable de lancer tous les jours. Aujourd'hui, un gérant se ferait fusiller si on l'utilisait 5 jours de suite, alors que lui, c'était aux 2 jours. Ça, c'était le minimum.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui arrive, c'est que quand un lanceur fait ça, comme lui, là, qui a été surutilisé à Montréal et avec les Dodgers, ça ne dure pas éternellement, surtout si tu lances la balle tire-bouchon, parce que c'est très, très exigeant sur le bras. Alors, à un moment donné, ça n'a pas été long que Marshall s'est éclipsé dans le firmament. On ne l'a jamais revu.
Oui, le problème de Marshall, il y a eu du succès avec Gene Mock au Minnesota par la suite. Le problème, André, pourrait me corriger, mais c'était pas ses performances et qu'il avait des difficultés à s'adonner avec ceux qui l'entouraient.
Non, mais c'était bon, j'aime pas ça dire ça, mais c'était un excellent joueur de baseball et un triste individu. Antisocial. Les Expos ont eu toutes sortes de problèmes avec lui. Bien sûr, ça ne donne rien de rentrer dans les détails, mais disons que ne faisait pas partie de mes idoles.
Ces années-là, avec les Expos, il y a eu divers personnages. On a parlé de Rusty Staub, on a parlé de Gene Mock, Mike Marshall. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans l'entourage des Expos de ces premières années-là qui ont retenu votre attention?
Ben, c'est drôle, moi, il y a Jim Fanning qui a occupé une place très importante parce qu'il était directeur général de l'équipe pendant plusieurs années. C'était l'homme de confiance de McHale. Fanning connaissait le baseball beaucoup plus que nous autres. On était des recrues là, dans le domaine. Alors, parfois, il pouvait nous en passer des petites vites, mais il reste qu'il a fait du bon travail. Et John McHale, qui était un ancien membre de l'organisation des Braves et qui a travaillé aussi pour le bureau du commissaire, avait été choisi pour lancer la concession des Expos. Moi, j'attends qu'il a fait un job extraordinaire. D'ailleurs, McHale a été en poste jusqu'en 1986 ou 87, parce que c'est... Mm-hmm. Et puis, en général, faites des bons échanges. Sauf que au milieu des années 70, là, je pense qu'il s'est trop fié. Il s'était laissé embobiner par Gene Mock. L'échange qui a amené Willie Davis à Montréal, ça a été un désastre. Et puis, l'échange qui a envoyé Singleton à Baltimore... Pour essayer d'amener Dave McNally qui a lancé 3 ou 4 parties pour les Expos. Alors, ils se sont cognés là, la tête 2 fois à cette époque-là, des mauvais échanges. Ce qui a fait qu'il faut dire recommencer à zéro en 1976 avec Carl Keel. Et puis ça a été plus ou moins, ben, je ne sais pas si ça n'a pas été 16, plus ou moins, ça a été absolument un désastre.
Ben, écoutez, ce que vous dites là, ça m'a été confirmé. Gene Mock était le grand manitou de l'équipe. Jim Fanning avait le titre de directeur général, John McHale de président, mais Gene Mock ne faisait pas juste diriger l'équipe sur le terrain. C'était lui qui était...
On l'appelait le petit général, mais en réalité, c'était le grand général.
Oui.
Il amenait sûrement trop large.
Écoutez...
C'est le même danger qui guette un instructeur au hockey qui veut s'occuper de faire les échanges aussi.
Exactement. Ce qui a coulé un peu Gene Mock à Montréal, et vous pourrez le confirmer, c'est qu'il était en amour avec les lanceurs gauchers, ce qui a amené Dave McNally. Woody Freeman, ça a bien tourné parce qu'on l'a eu la même année, mais ça a peut-être coûté la carrière de deux jeunes joueurs. J'aimerais ça que vous m'en parliez. D'abord, Baylor Moore. Baylor Moore qu'on a peut-être monté trop vite.
Dans le cas de Baylor Moore, c'est clair et net qu'il a monté dans les majeures trop rapidement. Il y avait beaucoup d'étoffes, là. C'était un potentiel de devenir un très grand lanceur, mais on l'a brûlé. On l'a brûlé complètement. Ça arrive souvent avec des jeunes lanceurs. Et dans son cas, c'est ça qui est arrivé.
Oui. Puis l'autre, c'en est un autre qu'on a monté trop rapidement. Joe Gilbert, qui est un lanceur gaucher. Ouais. Il n'avait même pas lancé au niveau 3A, puis on l'a monté directement.
Ouais, c'est ça, je dis, c'est une autre erreur. Mais Joe Gilbert avait sûrement, je ne pense pas, quoi, qu'il avait le talent de Baylor Moore.
Mais Gene Mock l'aimait beaucoup.
Ben, c'est certain. Gene, quand il aimait un joueur, d'ailleurs, le plus bel exemple de ça, c'est Tim Foley. Gene Mock se revoyait en Tim Foley, un joueur combatif. Une fois Foley était monté au monticule pour s'en prendre à Steve Carlton des Phillies. Jamais j'oublierai ça. Et puis, Mock, qui était en amour avec Foley, a sauté sur le terrain pour aller le défendre. Et puis, je peux te dire qu'il a mangé toute une volée par les joueurs des Phillies.
Oui, bien, écoutez, ça, c'est une chose. Gene Mock aimait, bon, effectivement, quand il tombait en amour avec un joueur, c'était éternellement. D'ailleurs, Foley a joué pour Gene Mock avec les Angels, sauf qu'il pouvait se mettre des joueurs à dos. Sa façon de faire à Gene Mock ne faisait pas l'unanimité à l'intérieur de sa propre équipe.
Ben non, mais c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a pas, un gérant qui fait l'unanimité, je pense qu'il n'y en a pas. Pas quel gérant qui a dit faut que tu réussisses avec 10 ou 15 joueurs. Et puis essayer d'ignorer ceux qui sont contre toi pour passer à travers. C'est Sparky Anderson ou quelqu'un d'autre qui a parlé de ça. Il va toujours y avoir des mécontents dans un club de baseball. Mais dans le cas de Mock, c'était un gars de la vieille école. Là. On recule. Lui, il a travaillé dans la Ligue Southern. Là, puis, alors, la vieille école, lui, Gene, il aimait beaucoup les vétérans. Puis il n'a pas très confiance aux jeunes joueurs. Même phénomène existe dans d'autres sports. Là. Et dans certaines occasions, ça lui a fait mal.
Ben, je peux vous confirmer que c'est pour ça qu'on l'a laissé aller. John McHale me l'a confirmé. Et John McHale qui aimait beaucoup Gene Mock, mais McHale voulait laisser de la place aux jeunes qui s'en venaient, des Parrish, Carter, Valentine, ouais. Dawson, Cromarty. Il voyait qu'ils s'en venaient, puis il ne pensait pas que Gene Mock était l'homme idéal là, pour... pour les diriger.
T'as parfaitement raison de dire ça, mais il y a l'autre effet aussi. Il y a l'effet de, comment dire, l'usure du temps. Là. Gene est arrivé là en 69, puis quand il est rendu là, en 1975, ça fait quand même 6 ans, au moins 6 ans, qu'il était à la, 6 ou 7 ans qu'il était à la barre de l'équipe. C'est rare qu'un gérant dure plus longtemps que ça, à moins d'être un gérant des Dodgers.
Gérant des Dodgers,
t'étais presque là jusqu'à ta mort.
Mais c'est quand même drôle parce que John McHale, par la suite, m'a indiqué que ça avait été une erreur de congédier Gene Mock. Que oui, avec les jeunes, il y avait de la difficulté. Oui, il avait pris trop de place, mais qu'il aurait peut-être dû s'y prendre autrement pour amener Gene Mock à intégrer ces jeunes-là au sein de l'équipe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dick Williams a été très bon pour les Expos. C'est ce que je pense. Évidemment, je l'idéalise peut-être parce que c'était mon époque d'adolescence. Donc, moi, j'ai adoré Dick Williams malgré tous ses défauts. Mais force est d'admettre que sur le plan philosophique, Gene Mock, ça donnait beaucoup mieux avec John McHale que Dick Williams pouvait le faire. Là. Dick Williams puis John McHale, il n'y avait pas deux individus plus différents que ces deux-là.
Non, écoute, dans le cas de Dick Williams, moi aussi, je suis d'accord que ça a été un excellent gérant. Son plus bel exploit dans mon livre à moi, c'est d'avoir amené les Red Sox au championnat en 1967. Ouais. À Oakland, il y avait un club pacté. Là. C'était un club extraordinaire, les athlétiques.
Ouais.
Et je ne dis pas qu'il n'a pas fait du bon travail, mais je pense que tu aurais pu être gérant et remporter le championnat. Ensuite, Dick, à Montréal, a fait du bon travail. Ça s'est très mal terminé, son aventure à Montréal. C'est Je pense qu'il aurait dû être là jusqu'à la fin de la saison. Mais comme McKay a décidé de le congédier et de confier l'équipe à Jim Fanning. Et puis, ben, c'était, de toute façon, c'était une saison plus ou moins officielle, ça, là, 1981, là, avec deux calendriers, en tout cas, peu importe. Et après ça, dès qu'il a continué, il a eu du succès à San Diego.
Oui.
Puis je pense qu'il a même été à Seattle vers la fin, je pense.
C'est là qu'il a fini.
Bon, et écoute, il a du ménage, là, Dick Williams. Ouais. C'est un gars de la même période. Lui, comme Gene Mock, c'était un gars qui était dans l'organisation des Dodgers, un joueur marginal. Mais souvent, les joueurs marginaux font les meilleurs gérants. Je me souviendrai tout le temps, au camp d'entraînement, quand on nous avait présenté Ted Williams comme gérant des Sénateurs de Washington. Et ça n'a pas duré longtemps. Et pour lui, le baseball, c'était pas compliqué. Ted Williams, c'était le meilleur frappeur de tous les temps.
Ouais, ouais.
Et souvent, ces gars-là ont de la misère à comprendre que il y a des joueurs de troisième et quatrième trio aussi.
Oui. Mais je reviens à la question directe. Est-ce que Gene Mock aurait pu continuer avec les jeunes? Et comme je l'ai mentionné, c'est John McHale lui-même qui me disait qu'on aurait peut-être pu s'organiser et en admettant que Gene Mock avait trop de pouvoir, il fallait lui en enlever un peu de se contenter sur poste de gérant.
Il aurait fallu que McHale convainque Mock que là, il y avait une période d'arrêt, on passait à la phase 2, une période de transition, puis il y aurait des nouveaux joueurs plus jeunes. Et je ne sais pas si Gene aurait accepté. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont mal choisi le remplaçant. Parce que Kalki, le parfait gentilhomme, mais c'était pas le gars pour prendre la... Je pense pas que c'était le gars pour prendre la relève. D'ailleurs, je pense qu'ils ont perdu quoi, 110 parties cette saison-là ou quelque chose.
Ah, c'était horrible.
Alors, c'était le désastre. Mais écoute, c'est la vie, ça. L'usure du temps. Peut-être l'usure du temps aussi.
Oui. On va revenir un petit peu avant des expos. Pourquoi? Parce que, on fait référence souvent aux Royaux de Montréal. Quand on parle de l'histoire du baseball au Québec, les Royaux de Montréal, Jackie Robinson, il y a eu la Ligue provinciale. C'est une ligue qu'on connaît mal, qui a... son histoire s'est terminée en 1970. Vous avez connu ces dernières années. Il y a des joueurs qui sont sortis de la Ligue provinciale qui ont fait des baseballs majeurs. Un de ceux-là, joue avec les expos, c'est Pépé Frias.
Oui. Honnêtement, Alain, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont partis de la Ligue provinciale pour aller jouer dans les majeures. Par contre, Pépé Frias, c'est un joueur marginal, mais je me rappellerai tout le temps qu'il avait signé son premier contrat avec les Expos. Je pense qu'on lui avait donné 40 000 $ à l'époque. Quand il retournait chez eux à San Pedro de Macorís, il était un homme riche, absolument riche avec ce salaire semblable. Mais dans la Ligue provinciale, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient atteint la Ligue 3A, comme Marcel Guilbeault en particulier, et d'autres joueurs qui avaient joué dans le 2A. Je me rappelle de Nick Testa, un excellent receveur qui a joué à Grimby, à Trois-Rivières. Lylas Poole, qui était mon idole chez les Alouettes de Sherbrooke. Mais il y avait aussi plein de Québécois qui avaient beaucoup de talent, là. Des lanceurs comme Pete Cianflone, Andy Occhionero, des gars de Montréal, ça. André Bessette était meilleur au hockey qu'au baseball, ça, c'est une autre histoire. Mais c'était du très, très bon calibre, parce que c'était des gars qui avaient du métier. Il y avait des jeunes joueurs, là, il y avait des recrues, mais il y avait surtout des gars d'expérience. Je me rappelle même que Jean-Pierre Roy, qui était... C'était une légende que j'ai connue, mais personnellement, avait été embauché comme gérant à Sherbrooke pendant une couple de mois. Mais c'était vraiment une super ligue de baseball menée par Yvon Ellison de Sherbrooke, un autre de mes amis, qui faisait de son mieux pour garder ça en vie parce que c'était le problème de la surenchère. C'est ça qui est arrivé. C'est que pour avoir les meilleurs joueurs, les équipes se sont mises à payer plus cher. Et puis c'est un peu ça qui a entraîné la mort de la ligue, plus l'arrivée des expos.
L'arrivée des expos et peut-être l'implantation aussi d'équipes au Québec. Je parle des Carnavals de Québec, là, qui sont comme par hasard, la Ligue provinciale s'est terminée en 70 et en 71, on a vu des équipes à Trois-Rivières et à Québec. C'est pas un hasard.
Ben c'est clair qu'en ayant les Carnavals de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, la Ligue provinciale pouvait difficilement continuer.
Ouais.
Je te dis, j'ai vu des parties extraordinaires. Je me rappelle surtout quand j'allais au stade, quand j'étais vraiment très jeune à ce stade, j'avais 14-15 ans, J'allais voir jouer les Castors d'Actonville dans le petit stade qui existe encore d'ailleurs. Puis, on présente encore du baseball avec beaucoup de spectateurs. Et l'étoile des Castors, c'était Henri Corbeil, lanceur de Montréal, un gaucher, un petit gaucher. On l'appelait le petit Sandy Koufax de la Ligue provinciale. C'était un lanceur fantastique. C'était pas rare que Henri faisait 12, 13, 14, 15 retraits sur des prises dans une partie. Ouais. Avec une excellente balle rapide et puis une très bonne balle courbe. Et les joueurs de la Ligue m'en ont parlé jusqu'à... Il y avait un tournoi des anciens, un tournoi de golf des anciens qui avait lieu jusqu'à il y a 4-5 ans à Drummondville. Tous les gars se réunissaient. Il y avait les anciens du hockey, de la Ligue senior de hockey, puis les anciens de la Ligue provinciale de baseball ensemble. Des journées fantastiques, ça. Ouais. Le nom d'Henri Corbeil et de Marcel Guilbeault. Les noms de Corbeil et de Guilbeault revenaient sans cesse dans la conversation. D'ailleurs, un qui nous faisait l'honneur de sa visite à ces tournois de golf-là, c'était Bill Lee, le seul et unique Bill Lee, qui était un bon ami de Elias, John Elias, ancien lanceur des Cardinaux de Grimpé. Alors, j'ai eu une couple d'entrevues avec Bill Lee au terrain de golf de Drummondville. Et des moments inoubliables.
J'ai pu assister une fois à cet événement-là, André, là, et les gens étaient ravis de se retrouver. Il faut bien mentionner, c'est une ligue ouverte, surtout les trois dernières années, je parle de 68 à 70, cette ligue-là était ouverte. Donc, on avait des gens qui arrivaient, bon, des États-Unis, mais qui arrivaient aussi, bon, de Cuba, Porto Rico, de la République dominicaine. C'était très relevé comme calibre de jeu.
Mais, écoute, je ne me rappelle pas tous les noms. Là. Je me rappelle qu'il y avait, je pense que Félix Mantilla est venu jouer. Wes Covington est venu jouer aussi à certains moments. Mais là, les autres noms ne me reviennent pas, mais il y a eu, Adrian Zabala. Il y a eu, ça c'était un très bon lanceur. Il y en a eu plusieurs qui sont venus jouer dans la Ligue, mais comme je l'ai dit, là, il y a eu le problème numéro un, c'était la surenchère.
Oui. Et il faut bien dire, là, les joueurs américains, afro-américains principalement, adoraient jouer au Québec parce qu'il n'y avait pas de restrictions comme ils connaissaient encore. C'est encore le cas dans les années 60. Là.
C'est ça. Et d'ailleurs, il faut aussi se rappeler que dans ces années-là, là, les joueurs des Ligues majeures ne touchaient pas des gros salaires. En 1968, là, je pense que il y a eu une bataille syndicale pour qu'ils réussissent à obtenir un salaire minimum de 10 000 $. Quand on pense à ça, là, aujourd'hui, avec des lanceurs à 30 millions puis des frappeurs à 40 millions, là, c'est quasiment... dans mon livre, en mode que c'est inimaginable. Puis, je trouve, moi, personnellement, je trouve ça absolument ridicule. Il n'y a pas aucun joueur de baseball qui mérite autant d'argent. Et puis, ça se reflète, ça. Il dit jamais, mais ça se reflète dans le prix des billets. Et en bout de ligne, c'est le consommateur qui paye.
Oui. Il faut dire que si les joueurs en ont autant, c'est peut-être que les propriétaires en ont de disponibles pas mal aussi.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est la démesure. Avant Marvin Miller, il avait des salaires de crevins. Depuis que Marvin Miller a réussi à leur obtenir l'autonomie, ça a tout changé.
Oui. Enfin, tout le monde fait de l'argent parce que je peux vous dire que si les propriétaires n'avaient pas cet argent-là, on n'en donnerait pas autant. André Rousseau, vous continuez à suivre le baseball parce qu'il y en a une ligue présentement, une ligue senior. On ne parle pas du tout de la même chose de la ligue provinciale qu'il y avait dans les années 60, mais vous continuez à suivre ces activités-là. Votre amour pour le baseball, ce n'est pas éteint, loin de là.
Ben non, puis aussitôt que je n'ai pas pu y aller beaucoup depuis le début de la saison, mais la saison est encore jeune. Comme disait Gene Buck, la saison de baseball, ça ne commence pas avant le 4 juillet. Il y a de très, très, très bons joueurs dans la Ligue senior actuelle. Je pense à François Lafrenière, à Saint-Jean. Les noms... écoute, je n'ai pas tous les noms par cœur, là, mais il y a de très bons lanceurs. Mais le problème, c'est qu'habituellement, chaque équipe a un très bon lanceur et un deuxième. Mais la profondeur n'est pas là. Mais ce que j'admire beaucoup, c'est que les jeunes qui jouent là-dedans, cette ligue-là, ne sont pas payés là, en général, ou très, très, très peu. Et puis on paye leur essence pour se rendre, là, les frais de transport. Ben, c'est parce que ça veut dire que ces gars-là ont un très grand amour du baseball pour jouer à si bas prix dans cette ligue. Moi, je lève mon chapeau. Je te dis, je ne sais pas si tu as la chance d'y aller. C'est surprenant comme calibre de jeu.
Il faut dire aussi que le baseball de calibre au Québec s'est amélioré. On le voit à chaque année, nos Québécois sont de plus en plus recrutés par les universités américaines. Donc, ceux qui décident de sortir, par exemple, des ligues juniors, la ligue junior élite du Québec, c'est un bon calibre. S'ils veulent continuer, s'en vont dans le senior, j'imagine que ça se reflète dans le calibre de jeu.
C'est évident. La relève est là. On développe plus de joueurs de baseball. C'est drôle là, qu'on développe maintenant des joueurs de baseball au Québec alors que les expos sont partis.
André Rousseau, vous continuez de suivre le baseball majeur, j'imagine, encore aujourd'hui. Bon, j'imagine, j'en suis certain, en lisant vos chroniques. Qu'est-ce que vous retenez dans le baseball d'aujourd'hui? C'est encore un sport, les athlètes sont meilleurs qu'ils étaient, le calibre est bon, le spectacle est encore bon, à mon avis.
Moi, je trouve que les athlètes, là, d'ailleurs, on le voit quand ils font les highlights à la télévision. Les athlètes sont fantastiques. Physiquement, là, c'est absolument extraordinaire. Les voltigeurs font toutes sortes de pirouettes pour attraper la balle. Les joueurs de récours sont en général très, très, très bons. Les receveurs sont bons. Parce que la seule chose que je déplore, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est que souvent, ça prend 6 ou 7 lanceurs pour lancer une partie. Ça me dépasse. Dans mon temps, là, quand un lanceur s'installait au monticule, c'était avec l'ambition de lancer la partie au complet. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. On calcule le nombre de tirs. Après tant de tirs, il faut le remplacer. Je surveille les box scores chaque jour. Et comme je te dis, c'est pas rare du tout. 6 ou 7 lanceurs pour une partie. Ça, j'aime moins ça. Par contre, ceux qui sont en courte relève, là, eux autres sont vraiment solides. C'est pas rare les balles rapides à 100 000 à l'heure aujourd'hui. Dans les années 70, là, il y avait Bob Gibson qui pouvait être étourdi avec sa balle rapide, là, mais il n'y en avait pas tant que ça des lanceurs qui lançaient à 100 000 à l'heure.
Oui. Effectivement, certains prétendent que c'est pour des maisons médicales maintenant là, que les matchs complets sont de plus en plus rares, que le coude est peut-être capable d'en endurer moins qu'avant, là, des manches. Là.
En tout cas, je ne sais pas, c'est un phénomène qui faut se rendre à l'évidence, là, on est rendu là.
Ouais.
Et ce que je remarque aussi en surveillant les box scores, c'est que les assistances sont en général très, très bonnes. Disons, San Diego connaît une saison très ordinaire. Puis c'est pas le rare qu'il y ait 38-40 000 spectateurs à San Diego. Puis même dans des villes où les Angels qui sont archi pourris ont souvent en haut de 30 000 spectateurs. Alors, il y a sûrement. C'est la NFL qui a la pôle aux États-Unis, mais il y a encore un très, très grand appétit pour le baseball, de toute évidence, d'après les chiffres des assistances.
Oui, absolument. André, en terminant, vous êtes toujours actif, on peut encore vous lire?
Oui, chaque matin, écoute, la passion d'écrire ne m'a pas lâché depuis 50 ans, plus que 50 ans. Et puis, ma chronique, les coulisses du sport.ca, est là chaque matin et je rejoins le plus de lecteurs possible. Je partage ma passion avec eux autres.
Merci beaucoup, André Rousseau.
Ça fait plaisir, Alain. Bonne journée.